Donc nous allons continuer la méditation de Matthieu chapitre 13. Ça paraît anodin, toutes ces paraboles, on dit oh, c'est mystérieux, on comprend ce qu'on veut, il y a différents sens. Oui, on peut donner différents sens. Mais est-ce que Dieu a donné plusieurs sens? Le problème est le suivant, c'est que quand on a un texte de la Bible, si on rencontre des chrétiens de partout dans le monde, et je trouve même parfois chez certains protestants moins de respect pour certains textes que chez les catholiques. Je vous le dis. Des audaces incroyables sur les textes, où on a la liberté d'interpréter comme on veut les textes. Alors on peut, quand on sort d'une réunion où on est avec des tas de chrétiens de ce genre-là, on peut se dire, mais est-ce que Dieu a bien dit que ? Est-ce que Dieu a bien dit que ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Puisqu'il y a tellement de sens. Ben, il n'a rien voulu dire, c'est à nous de donner un sens au texte. Et c'est la théologie de la perdition, j'appelle ça moi, c'est celle que Satan a proposée à Adam et Ève, dès le chapitre 2, chapitre 3 de la Bible. Quand il est arrivé tout près de Ève et puis Adam, il a dit « Dieu a-t-il bien dit que ?» Donc, je pense que quand Dieu dit quelque chose, il lui donne un sens, et pas 36 sens. Il y a parfois un sens pour l'époque de Jésus, l'époque proprement dite du départ du christianisme, du temps de Jésus, et puis il y a un sens pour le futur. Ça arrive. Généralement, il y a toujours deux ou trois portée historique, mais dans le même sens. Ne disons pas que c'est des sens différents. Faites bien attention à tout ça. Il y a beaucoup de livres ici, ils sont là à la disposition pour s'instruire, pour prendre du temps, pour pouvoir mieux comprendre la Bible. C'est très rare ceux qui en prennent, très rare. C'est un peu dommage. Ça peut beaucoup aider. Mais il faut travailler pour ça, il faut prendre le temps, il faut laisser tomber des tas d'autres trucs. Satan vole aujourd'hui des milliards d'heures de prière et de méditation dans la parole au peuple de Dieu, qui sont toujours sur Internet, sur les plaquettes, les tablettes et tout le reste, le téléphone. Ou en disant, j'ai trop de choses à faire, l'affairisme. Affairisme, comme disait un membre de l'église ici avant, Joseph Gros, qui était un homme d'affaires, qui a toujours couru. Et quand il est devenu chrétien, il a dit « affairisme égale affaire du diable ». Ok ? C'est Joseph lui-même qui l'a dit. Pas moi qui l'ai inventé. Je dis cela parce que la parole de Dieu mérite un investissement profond et sérieux et fidèle et régulier. Pour que Dieu vous donne, à moi comme à vous, le sens de ce qu'il a dit. Et pas se laisser berner par toutes sortes de pensées qui viennent de Satan et qui détruisent l'interprétation des textes. Voilà. Je vous rappelle que la première parabole, c'était avec le semeur. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. Le bon terrain qu'il reçoit, c'est ceux qui ont un cœur honnête et persévérant et qui gardent, qui mettent en œuvre la parole de Dieu. La deuxième parabole, c'est celle du blé livré. Là, il ne s'agit plus de la parole de Dieu. Il s'agit des chrétiens, des enfants de Dieu et des enfants du diable. Or, les enfants du diable et les enfants de Dieu sont ensemble dans le même champ. Et les enfants du diable ressemblent aux enfants de Dieu. C'est ça l'illusion du chien dent de livré. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, j'ai prêché là-dessus la dernière fois, la parabole de livré et du chien dent, donc, et du bon blé. Bon, maintenant, il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur quelque chose qui est le sel jeté sur la terre. J'y reviendrai après. Vous devrez faire fort attention, parce que Jésus a dit, à quoi sert le sel, hein? Si le sel s'affadit, avec quoi salera-t-on la terre? C'est un moyen de remédier à la provocation du faux évangile. C'est un moyen de contrecarrer l'extension des faux chrétiens. Le sel jeté sur la terre. On y reviendra plus tard. C'est dans un autre texte dans Matthieu. Et il est plein de sens, de sagesse pour aujourd'hui. Et pour nous. Pas que pour les autres. Maintenant, dans Matthieu 13, la troisième parabole, c'est celle du grain de sénevé. Matthieu 13, versets 31 et 32. C'est des paraboles très courtes, mais très pertinentes. C'est pas très clair ici, je vais essayer de trouver un autre moyen d'éclairer. Ça devient pénible, c'est peut-être dû à l'âge. Hein. Matthieu 13, verset 31, il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Bon, c'est un arbre pas comme les cyprès, les sapins, les chênes, c'est pas un arbre comme ça, c'est un arbre de taille moyenne, maximum 3-4 mètres. C'est un arbre avec beaucoup de branches, c'est ça, cet arbre qui pousse à partir de la graine de sénevé. Et pratiquement, c'est l'image de la suite de l'évangile. Quand Jésus a donné sa parole, qu'il y a eu des chrétiens et des faux chrétiens, il y a un christianisme qui s'est développé, c'est un arbre, à partir d'une petite semence, Jésus, et cet arbre va donner quelque chose où peuvent s'abriter beaucoup d'oiseaux. Donc le grain de sénevé est minuscule, il donne un arbre, pas super géant, parce que Dieu n'a jamais voulu que le christianisme soit un super géant qui écrase toutes les autres religions et qui écrase tous les hommes. La domination au nom de Dieu, Jésus n'a jamais voulu. Les hommes peut-être, mais pas Jésus. L'image représente l'extension de l'évangile. L'arbre résiste à l'assaut du malin. Hein, l'arbre vit. Malgré que, arrivé à sa stature, tous les oiseaux qui viennent sur lui sont des fils du malin. L'arbre étant les vrais chrétiens, et cet arbre est envahi des fils du malin. Matthieu 13, verset 4, vous verrez que les oiseaux ne sont pas n'importe quoi. Matthieu 13, verset 4. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Oui, vous voyez ce verset ? Eh bien, c'est évidemment extrêmement important. Au verset 19, on voit exactement la signification. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, les oiseaux, les corbeaux par exemple, les pies, enfin, on voit ça tout le temps, moi, enfin, avec le jardin, avec le champ là au-dessus, c'est typique. Hein. Les étourneaux, enfin, quand ils arrivent tous à un paquet là, eh bien, ils envahissent tout. Mais à un moment donné, ils sont tellement qui vont sur les fils, et là où il y a le banc pour s'asseoir, plein de croûtes. Badaboum. Et quand ils sont sur les fils, il y en a même plein sur la route. Et parfois, ils reviennent au village, ils se mettent sur la gouttière ici, à la porte d'entrée, c'est chose bizarre, au-dessus de notre porte d'entrée blanche ici, c'est crépi de croûtes, je dois prendre régulièrement l'eau pour laver. Alors, pratiquement, les oiseaux sont les fils du malin, qui sont déjà dans la parabole de l'ivraie et du bon blé, mais en plus grand nombre. Ils envahissent l'arbre, ils envahissent la vraie chrétienté. En 313, Constantin oblige tous les citoyens romains à être baptisés dans l'eau et à devenir chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Avant, on était baptisés quand on avait la foi, on était enseigné. Je vous montrerai un jour ce livre, la Didachée, c'est un livre qui, pendant 3 ans, on formait les chrétiens en vue du baptême. Et donc, c'était sérieux. Et c'était pour quelqu'un qui comprenait le symbole du baptême. C'était pas pour des bébés qui n'y comprennent rien. Avec, en 313, Constantin qui se dit chrétien, malheureusement il a fait assassiner son beau-père, c'est bizarre. Comme pour un chrétien, à mon avis c'est justement un oiseau dans l'arbre. Eh bien, pratiquement, il y a une invasion d'à peu près 80 millions de citoyens romains dans le christianisme. Et on leur a dit qu'ils étaient baptisés et devenus chrétiens et sauvés. Voilà. Donc l'image de l'envahissement de l'arbre par les oiseaux, c'est l'image de l'ivraie. L'ivraie était qu'un des aspects, mais là l'invasion de l'arbre, c'est canon. Alors, si on regarde bien au verset 25, Matthieu 13, verset 25, Matthieu 13, verset 25, c'est au moment, dans la parabole du numéro 2, celle du blé de l'ivraie, où la bonne semence a été mise, pendant que les gens dormaient, les chrétiens dorment, ils se laissent aller. Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Les chrétiens dormaient. Et vous savez très bien que Paul l'a dit plusieurs fois dans ses épîtres, « Ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. » Les chrétiens paraissaient comme les autres, comme des morts, comme des séparés de Dieu. Ils avaient la même allure, le même comportement, ils se laissaient aller. « Ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. » Tu n'es pas mort, tu n'es pas séparé de Dieu, mais tu vis comme eux. C'était assez sévère dans la bouche des apôtres, et moi je pense que la parole de Dieu est comme une épée qui rentre dans la jointure de nos os, elle doit aujourd'hui le faire aussi. Il faut qu'on en arrête avec ce faux christianisme d'Europe, il faut avancer dans la parole et dans la vraie conversion. Cette année-ci, je partirai plusieurs fois en France, parce que je n'ai pas envie de passer le reste de ma vie à assister à la mort de la foi chrétienne. Comme l'église de Laodicée qui se figurait qu'elle était sauvée, alors que Jésus était derrière la porte. Elle n'était même plus dans l'église. Et donc, prenez la parole de Dieu au sérieux et ayez du zèle, de la passion pour la parole, de la passion pour Christ. Il n'y a pas deux choix. Ou c'est l'église de Laodicée, ou c'est l'église de Philadelphie. Au chapitre 3 d'Apocalypse. Les gens dormaient. Ça veut dire que, clairement, dans la deuxième parabole, au début du christianisme, Jésus annonce déjà que les chrétiens vont se laisser aller. Et regardez bien au mont des Oliviers, quand il est mort crucifié, ses trois meilleurs disciples, roupies. Heureusement qu'il nous a aimés le premier et qu'il a tout est grâce en lui. Parce que notre salut, il est perdu. Si Jésus était un demi-dieu, un demi-miséricordieux, notre salut est perdu. Bernique, on ne va pas au ciel. C'est tout est grâce en Christ, heureusement. Et réveillons-nous, saisissons la grâce que Dieu nous a faite, soyons surtout reconnaissants pour guérir de cet endormissement. Il faut prendre le temps de louer, d'adorer Dieu régulièrement. Il faut louer, adorer et prier. Éteignez vos téléphones et tout le saint tremblement qu'on a créé là, du diable. Si vous vous servez de la télévision, de l'internet et tout ça, une demi-heure par jour, c'est assez. Pour les chrétiens, pour les autres, ça, on sait bien que c'est 4 heures, presque 4 heures en France et 3 heures environ en Belgique. Ben oui, le diable sait comment endormir le peuple. Alors, à la fin du premier siècle, on y est. Il y a déjà eu l'endormissement, il y a déjà de l'ivraie, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec Constantin, ça y est, l'arbre est rempli. 80 millions de gens qui rentrent dans le christianisme sans être chrétiens. Les chrétiens de multitude se sont établis dans les lieux chrétiens, vraiment où il y avait des convertis, où il y avait l'Esprit de Dieu, et ont occupé l'arbre. L'invasion des oiseaux, des fils du malin, constitue l'affirmation d'une apostasie agissante. L'apostasie, c'est ça. Deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2. Et c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, les amis. Deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 17. Nous sommes dans les années 52. Vous vous rendez compte ce qu'a dit Paul? Mais vous pouvez voir l'épître de Pierre, de Jude, de Jean. Ils se tiennent tous la main, les apôtres, pour dire la même chose. dans les actes des apôtres aussi, dans les actes des apôtres, quand Paul dit, invite à Milet, un Milet c'est sur l'île de Crète, les responsables de l'église d'Éphèse à venir le voir. Il retourne vers Jérusalem et puis il va aller à Rome. Et pratiquement, il leur dit, je ne retournerai plus à Éphèse. Il leur dit, attention, Satan va venir et introduire dans votre église des faux apôtres, des faux docteurs. Vous allez souffrir, il leur dit. Dans les actes des apôtres. Tout le réalisme des apôtres était là, et semblable à celui de Jésus. Alors, l'apostasie. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous lisez tout le reste. Tout le reste. Je n'ai pas le temps de le lire. Je suis dans Matthieu 13, mais c'est du devoir des chrétiens de lire ce texte et de le méditer. Ça va jusqu'au verset 17. Et je vais vous dire ce que Dieu a choisi pour nous. Pour nous. Si on saisit ce que Dieu nous a dit. Au verset 12. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit Saint et par la foi en la vérité. Le verset 13 est très important. La sanctification de l'Esprit Saint par la foi en la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est la parole de Dieu. Jean 17, 17, ma parole est la vérité. Donc l'enjeu est capital dans ces paraboles qui sont des prophéties en fait. Dans Matthieu, reprenons Matthieu 13, l'enjeu est capital. Jésus ne parle pas pour rien. Il ne raconte pas des fables. Alors, pour information, avant déjà Constantin, plusieurs pères de l'Église, Antioche en Syrie, Alexandrie, Carthage, ont écrit des lettres à Rome en disant que l'évêque de Rome ne devait pas prendre autorité sur les autres églises, que chaque église avait son autonomie, que chaque église dépendait de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu. On a aujourd'hui, dans des livres, tous ces courriers. Tous ces courriers, on les a. Des croyants qui disaient, vous ne devez pas prendre le pouvoir sur les autres églises. Mais évidemment que c'était l'endroit où était l'empereur et qu'il avait tout intérêt à monopoliser et à s'introduire dans la foi chrétienne pour mettre la main sur les gens. Alors, la politique ne peut jamais rentrer dans la foi chrétienne, jamais, d'une manière ou l'autre, ni l'argent. Seule la parole de Dieu et l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, avant déjà qu'il y ait Constantin, donc, on a des écrits, du fait que j'ai fait les études de prêtre, que j'avais une bibliothèque énorme chez les jésuites et au séminaire, j'ai pu aller mettre mon nez dans tout ça. C'est pas l'institut biblique en 3 ans où j'aurais pu voir tout ça. Mais c'est clair que pendant 2-3 siècles, ils ont rouspété contre l'évêque de Rome en disant, vous allez trop loin. Dieu ne vous a jamais demandé ça. Mais déjà avant, à Constantinople, on a déjà pris un pouvoir sur toute la Turquie, la Grèce, etc., sur les églises locales aussi, à Constantinople. Et on a établi des icônes, des statues rapidement, et pratiquement c'est là qu'est apparue la première doctrine de la dormition de Marie, qu'on trouve des textes du 5e, 6e siècle. Alors pratiquement, on trouve en Antioche, en Syrie, un évêque, Ignace d'Antioche, qui dit, là où il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas d'église. Pourtant, Jésus a dit, là où vous êtes réunis en 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Origène d'Alexandrie dit que toutes les paraboles et les prophéties n'ont pas de contenu historique. Donc, Matthieu 13, on interprète comme on veut alors. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, mais même Isaïe 53, on l'interprète comme on veut. Ça n'a pas de contenu historique. C'est allégorique et symbolique. J'étais prêtre, j'ai fait la formation, et dans tous ceux qui sont responsables de la catéchèse, dans les évêchés de Liège, Namur, etc., la doctrine, c'est que la prophétie est allégorique et symbolique. Ça vient d'Origène. C'est faux. C'est faux. Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5, « Ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint a parlé par les prophéties. Il faut respecter la parole de Dieu. Si je ne comprends pas, Seigneur, augmente ma foi et mon intelligence. Renouvelle mon esprit. 1 Corinthiens 12. Et tu m'aideras à comprendre. Mais pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Parce qu'alors, tous les responsables des grands systèmes religieux vont dire, c'est ça qu'il faut comprendre, puisque Dieu ne l'a pas dit. Ça s'appelle de l'imposture. Jean Chrysostome, dans ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui, a eu un rejet déclaré à propos des Juifs. Mais pourtant, il y a plein de prophéties, de promesses pour Israël. Il a des écrits formidables sur le Christ, et pourtant il est devenu anti-juif. Comment c'est possible? Il a lu la Bible dans ce qu'il arrangeait et pas dans ce qu'il dérangeait. Vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, Arius, évêque de Syrie, a décidé que Jésus était une créature de Dieu et que ce Jésus, étant un Dieu à capte idée, a créé nous, la création. C'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Ça a régné 2 siècles. Et Arius et l'arianisme ont utilisé l'appui des armées de Constantinople pour massacrer les chrétiens qui croyaient dans Jésus à la fois homme et Dieu. C'est bon qu'il y a Athanase d'Alexandrie avec sa bourrique, un pauvre petit serviteur de Dieu, fidèle, qui faisait le tour de toutes les églises. On lui a même crevé les yeux, les arianistes lui ont crevé les yeux, il a continué et a prêché l'hypostase de Christ, c'est-à-dire la nature à la fois humaine et divine de Jésus. Il y a des chrétiens qui en ont bavé pour maintenir la vérité. Et c'est contre ces oiseaux qui sont dans l'arbre. Des drôles d'oiseaux. Qui n'ont pas fini de faire parler d'eux d'ailleurs. Alors, je pourrais citer des autres exemples historiques, plein. Ça serait l'objet d'une retraite. La quatrième parabole, Matthieu 13, versets 33 à 35. Matthieu 13, 33 à 35. Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Un seul verset, une parabole. Ah, mais d'une importance capitale. Regardez dans Matthieu 14, verset 6. Si je ne me suis pas trompé, hein. Oui, je me suis trompé. Attendez. 15, verset 6, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Un peu plus loin, verset 7, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et, un peu plus loin, mais je retrouverai peut-être le verset après, le levain, c'est l'enseignement des pharisiens. C'est l'enseignement, le faux enseignement des pharisiens, le levain. Et donc, le faux enseignement, ici, a gagné le christianisme. C'est ça que ça veut dire. Un seul verset pour dire le faux enseignement menace le christianisme. Et fait lever la pâte. Ça veut dire qu'il y a l'impression que le faux christianisme est le vrai. Tellement il se répand il prend de la prestance, il s'étend, bien sûr avec Constantin et tous les autres, il prend de la prestance, il déborde. Vous avez déjà fait de la pâte pour faire le pain? Vous la laissez lever, mais il y en aura jusqu'à terre, ça va continuer. Ça va continuer. Si vous ne l'arrêtez pas, vous ne mettez pas au four pour faire du pain, ça y est, il y en a partout. Eh bien, pratiquement, le levain fait une œuvre de débordement. Il fait une œuvre de gonflement. C'est la grenouille qui vient comme le bœuf. La fable de La Fontaine et d'Ésope. Et pourquoi? Parce que le faux christianisme, le levain, c'est le faux enseignement, a donné l'impression d'être le plus fort et le plus vrai. Historiquement parlant. Et le vrai enseignement, ben on se demande où il est. On se demande où il est. La vraie parole de Dieu respectée et aimée pour elle-même, sans rien ajouter, sans rien retrancher, où est-elle? Mais si je vous dis cela, ce n'est pas parce que je suis en train de faire un plaidoyer d'avocat. Regardez Apocalypse, à la fin d'Apocalypse. Chapitre 22. Non, ma page est tellement abîmée. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'épouse, c'est donc l'église. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc l'eau de la vie, c'est l'Esprit Saint. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un, regardez bien, il ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc, le verset 18 nous renseigne quoi? Nous renseigne quoi? C'est que ceux qui sont chrétiens, en ayant ajouté quelque chose, connaissent les tribulations. Les tribulations dans l'Apocalypse, c'est réservé pendant 7 années. Quand les chrétiens spirituels sont enlevés, il reste les chrétiens charnels et les athées, les incroyants, et l'Israël très endurci, qui retourne à la loi et au sacrifice dans le temple. Et pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là restent dans les tribulations. Ils subissent les fléaux. Du chapitre 6 au chapitre 18, ils vivent, il y en a qui se convertissent, évidemment, qui regrettent ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont dans les périodes de tribulation. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Donc, si quelqu'un retire quelque chose de la Bible, il n'est pas dans la vie éternelle. Vous savez, la naissance de l'islam est venue avec quelqu'un qui a dit « Jésus n'est pas mort sur la croix ». C'est un autre qui est mort sur la croix. Il s'est sauvé. Jésus s'est sauvé, il n'a pas été arrêté. Parce qu'il y avait des fables judaïques, des juifs, des responsables juifs, pour dire la même chose, que Jésus n'avait pas été crucifié, il n'était pas le Messie. Donc ils se sont saisis de ça, et c'est dans le Coran. Il n'y a pas la croix, il n'y a pas la grâce. Il n'y a que la loi. Des lois, des soumissions. Et des jugements sur ceux qui ne font pas la soumission. Voilà un exemple de quelque chose où on a retiré la croix. Mais quand vous prenez d'autres doctrines, par exemple chez les adventistes, où on pratique le sabbat, on pratique des choses, des lois judaïques, pour être sauvé, si on ne les pratique pas, on n'est pas sauvé, eh bien on a retranché la grâce. La grâce de la croix qui sauve. La croix est subordonnée au respect de la loi. On est retombé dans du judaïsme, déviance et tout. Donc il y a plein de choses comme ça. Et il faut faire attention que cette pâte est quelque chose de considérable qui a débordé sur le monde à cause du faux enseignement. Jésus n'a pas dit qu'on devait avoir peur. Jésus a dit qu'on devait garder la parole, c'est tout. Et celui qui garde la parole demeure en moi. Jean chapitre 14. Donc c'est fort important, les amis, si vous avez de l'amour pour la parole de Dieu, de prendre tout ça au sérieux. L'histoire a bien montré que le Christ avait vu clair, avait tapé juste. Même Pierre, hein, l'apôtre Pierre, à un moment donné, hein, quand il a réagi contre Jésus en disant « Tu n'iras pas à la croix ». quand il y a la transfiguration. Tu n'iras pas à la croix, non. On ne t'arrêtera pas, tu ne seras pas sacrifié. Tu ne mourras pas pour nos péchés. Même Pierre fut considéré comme un caillou. C'est Pétros, dans Matthieu 16, verset 18. Et, un peu après, Jésus lui dit, « Arrière Satan, tes pensées sont celles des hommes. » Des hommes. Pourquoi des hommes? Parce que la pensée des hommes va gagner le christianisme. La pensée des hommes va, sans la foi et sans l'Esprit Saint, va gagner le christianisme. Comme la pâte, le levain, est débordé, est caché le vrai christianisme, qui résiste toujours, malgré tout ça. Et Satan avait séduit Pierre pour refuser le sacrifice de Jésus. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, arrière, Satan, tes pensées sont celles des hommes. Regardez ce qu'il a dit à Pierre. Pierre a dû souffrir considérablement parce qu'il aimait Jésus. Mais il a compris après que sans le Saint-Esprit qui lui faisait comprendre la portée du sacrifice à la croix, il n'y avait pas de salut. Ok ? C'est très important. Regardons 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Il y a bien d'autres textes à lire, hein, mais bon, voilà. 1 Corinthiens 5. Vous allez voir que Paul utilise les mêmes images, parce que Paul connaît Jésus par des visions, par des entretiens spirituels avec lui. Hein. 1 Corinthiens 5, verset 6. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain. » 1 Corinthiens 5, verset 6. Faites disparaître le vieux levain. Bon dimanche, Henri.
Merci, au revoir.
Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez dans une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et donc, il considère que les chrétiens sont de la farine sans levain. Le vrai chrétien. Le vrai chrétien. Parce que le Christ a été immolé et nous a sauvés. Regardez bien, ces versets sont capitales pour comprendre la prophétie de Marc 13. Alors, pratiquement, il est clairement mis, vous êtes sans levain. Le faux christianisme est avec levain, et il déborde. Tandis que nous sommes du pain azyme, sans levain, comme lors de la Pâque juive. Notre Pâque a été immolée, c'est le Christ, c'est le verset 7. Et faites disparaître le vieux levain, c'est-à-dire, n'écoutez pas les fausses doctrines qui négligent le salut de Jésus par son sacrifice, par sa rédemption gracieuse à la croix et sa résurrection. Ne négligez pas. C'est bien à tort que vous glorifiez, ça y est, vous faites déjà le malin, vous allez vous écarter. Vous allez vous écarter, vous commencez à vous mettre dans les pensées des hommes. Non, Paul dit non. Faites disparaître le vieux levain. Le combat pour la vérité, le combat pour saisir et garder le sens de l'amour de Jésus sur la croix qui nous sauve au prix de son sang, prédestiné dès avant la fondation du monde. Alors, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, célébrons donc la fête, non du vieux levain, la fête, c'est-à-dire notre foi, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. N'oubliez jamais ces versets-là pour comprendre Matthieu 13. Hein? Le seul verset que Jésus parle de la pâte et du levain. Parce que vous avez un contraste énorme. Vous avez l'éclairage là. Vous devez savoir que la Bible éclaire toujours la Bible. Quand quelque chose n'est pas compris, ne dites pas ça n'a pas de sens. Je me décourage. Continuez à lire la Bible, vous tomberez un jour, parce que l'Esprit Saint vous aidera, sur les versets qui vous donnent l'explication d'autres choses. Peut-être il y a 20 ans depuis que vous l'avez lu, ou 15 ans, 10 ans, 2 jours, vous ne l'avez pas compris. Tout d'un coup, paf, merci Seigneur. Parce que c'est lui qui tourne l'interrupteur, clic. Je ne suis pas assez malin. Ok ? Ça c'est extrêmement important les amis. C'est extrêmement important. Alors, puisque nous sommes prédestinés à être sauvés par la Pâque de Christ, regardons la première épître de Pierre, Ce Pierre qui ne voulait pas que Jésus soit crucifié. Hein? Eh bien, les amis, premier épître de Pierre, vous allez voir. Hein? Notre apôtre de Pierre a tenu compte du coup d'épée de Jésus. Il le positionnait du côté de Satan. Jésus a positionné Pierre du côté de Satan. Moi, je ne t'accepte pas n'importe quelle condition, mon ami Pierre. Taratata, tu as beau m'aimer, avoir de l'affection sentimentale pour moi, taratata, pas de vie éternelle, tu es avec Satan. Ne confondez pas la foi sentimentale et la foi dans l'Esprit Saint. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Rien à voir. Alors, premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ça, je suis saint, c'est dans le Lévitique. Clairement dans le Lévitique, déjà avec Moïse. Appel à la sainteté. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été racheté. Ni le mouton, ni le veau, le bœuf, la tourterelle, offert au temple avec des prières, avec de l'encens, hein? Ni l'or mis dans le tronc, mis à Jérusalem, ne peuvent sauver un juif. Pas plus nous ici. Personne. D'ailleurs, quand vous voyez Pierre et Jean qui rentrent dans le temple et qui rencontrent le paralytique à terre, ils disent « Nous n'avons ni or ni argent ». La preuve, ils sont débarrassés de cette fausse illusion qu'en donnant quelque chose, ils allaient être sauvés. Il n'y a plus besoin de ça. Il y avait le sacrifice de Christ dans leur vie, ils avaient la foi dans le sacrifice de Christ, la foi dans le ressuscité, et quand ils avancent à deux et qu'ils passent à côté des nés, le Christ est là entre eux deux. Êtes-vous convaincu que Christ est là avec vous tous les jours, jour et nuit? Alors, regardez bien, ce Dieu qui juge sans faire exception de personne, conduisez-vous avec crainte, ben, il faut avoir peur de devenir un faux chrétien, c'est clair, il faut se méfier. Pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est Pierre qui dit ça. La vaine manière. On mérite son salut. On applique des commandements, des règles. Pierre était comme ça. C'est pour ça qu'il avait dit à Jésus, il n'y a pas besoin de ton sacrifice à la croix. Il était bétonné dans la loi. Mais, regardez, vous êtes sauvés par qui ? Verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ça, c'est Isaïe 53. Ça, c'est Genèse 22, l'agneau sur le mont Morija, avec Abraham et Isaac. Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui, croyant en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc vous voyez que l'apôtre Pierre confirme ce que Paul vient de dire. Hein? Attention au faux levain. Vous êtes un pain sans azyme. Vous n'avez plus besoin de la loi. Vous n'avez plus besoin de croire qu'il y a des mérites pour être sauvé. Il n'y en a aucun mérite qui vous sauvera. Il faut être, reprenons Matthieu 13, il faut être du pain azyme, c'est-à-dire sans levain. Et qu'est-ce qu'annonce donc Jésus dans Matthieu 13? C'est que, eh bien, il y aura une propagation d'un pain avec levain. Avec levain, c'est-à-dire d'un faux pain, pas le pain qui honore Dieu, et d'un faux christianisme qui n'honore pas Dieu et qui va gagner le monde. C'est dur à entendre, les amis. C'est dur à entendre. Et pourtant, c'est la vérité. Ça s'est accompli. Alors, on va un peu plus loin. On va aller plus loin. Il y a d'autres prophéties, hein, d'autres paraboles. Au verset 44, Matthieu 13, 44. Je pourrais prendre beaucoup plus de temps encore sur ces paraboles. J'ai étudié ça longuement. Quand je vais en France, par exemple, une semaine, ils me posent des questions. Je fais toutes les questions, par exemple, l'après-midi, mais je donne les enseignements le matin. Eh bien, on n'en finit pas, hein. On n'en finit pas. C'est sur une semaine, il faut faire ce qu'il faudrait faire sur 6 mois ici. Alors, Matthieu 13, verset 44. Un seul verset. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Un seul verset. J'ai déjà essayé de le comprendre depuis que je suis jeune, de 36 manières. Mais heureusement que j'ai rencontré de temps en temps des gens avec qui j'ai pu parler, des gens qui étudient la Bible depuis longtemps, et notamment des gens d'origine juive qui sont chrétiens. Et là, il y a quelque chose à retenir quand on les rencontre. Le champ, c'est encore l'image de Dieu. Hein? Regardez bien. C'est encore l'image de Dieu. Le monde est immense et vaste. OK? Le trésor caché, c'est quoi? Eh bien, prenons Marc 9, 35. Marc 9, 35. Marc 9, 35. Marc 9, 35. Il s'assit, appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. C'est clair. Lui s'est fait le dernier de tous et le serviteur de tous. Non. On a beaucoup de rallonges à mettre. Mais c'est comme ça. C'est lui. Verset 35, c'était, oui, le serviteur de tous. De tous. Et comment? Bien sûr, par la croix. Et encore aujourd'hui, Jésus est le serviteur de tous. Alors, nous étions au verset 44 de Matthieu 13, mais il y a d'autres versets à aller voir. Il s'est fait le petit serviteur dans Matthieu 23, 11. Matthieu 23, 11. Vous vous rappelez bien que dans Philippiens, chapitre 2, il a pris la condition d'un esclave. Lui qui était égal à Dieu a pris la condition d'un esclave. Philippiens, chapitre 2, c'est Paul qui le dit, la kénos. Ben, maintenant, dans Matthieu, verset 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et comment comprendre le texte? Mais il faut voir le contexte. Quand on a un verset, on voit le contexte. Et le contexte, il est clair. C'est que partout, Jésus, dans ce chapitre, dénonce les hypocrites qui se mettent en valeur et qui prient devant tout le monde. Et il dit, vous, les chrétiens, ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme ça, je n'ai pas envie de ça. Et il dit, voilà, au verset 8, 23 verset 8, « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Donc ce directeur, ce maître, qui lave les pieds de ses disciples et qui meurt sur la croix, s'est fait le plus petit, s'est fait le serviteur. Philippiens chapitre 2, lui, qui n'a pas gardé sa condition égale à Dieu et qui s'est fait le serviteur, l'esclave, doulos. Donc, dans le trésor, nous voyons que c'est le trésor caché, alors que le monde et la religion et tout le monde qui se fait valoir, Jésus était caché, Jésus de Nazareth était petit. Colossiens, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il en est dans le christianisme de ce Jésus ? Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire vraiment vous avez reçu Christ en vous, hein, vous avez donné toute votre vie au Seigneur, vous êtes dans la puissance de la résurrection de Christ. Hein. Moi j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Je souhaite que vous y croyez vraiment, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que Christ est ressuscité. Il est la puissance de vie. Il a la puissance, l'honneur et la gloire. Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes sous sa gloire, sa puissance et sa vie. Vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez le débat ? Les choses qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce que vous avez vu ? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc il y a un temps où même un chrétien, un vrai chrétien, quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, qui s'est vraiment repenti, qui a vraiment compris qu'il est un pécheur et qu'il avait besoin de la grâce du Christ pour être sauvé, eh bien, ce chrétien, sa vie est cachée avec Christ. Aujourd'hui, il ne fait pas partie des grands leaders de ce monde, il ne fait pas partie des grands glorieux, des hommes d'affaires, il ne fait pas partie de ceux qui trompent les autres par des beaux discours. Il vit avec Christ, caché en Christ. Alors, comprenez-vous maintenant Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Nous sommes dans le champ, nous sommes dans le monde. Nous paraissons être comme le monde, et en fait, Christ est caché en nous. Ça donne un regard autre sur les choses et sur notre vie. L'homme qui l'a trouvé le cache, le trésor caché, il trouve son Christ vivant, son Seigneur et son Sauveur, comme Marie de Magdala, hein, comme Jean, comme Pierre, comme tous les apôtres, et il le cache, il le garde pour lui. Hein? Et puis dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, il achète ce champ. Il doit prendre des décisions radicales de séparation avec les convoitises trompeuses, comme tout à l'heure Vincent l'a présenté dans les textes. La vie mensongère, il faut être revêtu de Christ. Tout ce qui a été dit par, tout à l'heure par la Bible et par la présentation de Vincent, ça va dans ce sens-là, hein? C'est étonnant, quand des fois, souvent, j'écoute la présentation, j'ai dû m'absenter un peu pour ma mère, courir à droite et gauche, mais ce qu'il y a, elle n'allait pas bien, elle l'étouffait, mais pratiquement, ce qui se passe, ce qui a été dit, correspond tout à fait à ça. On ne s'est pourtant pas concerté, mais l'Esprit-Saint concerte. Il est caché et il agit chez le Christ caché en nous. Pour agir de concert entre nous. C'est le miracle de la foi. Les chercheurs existent toujours. Les chercheurs du trésor existent toujours. Les chercheurs de Christ existent toujours. Et ceux qui ont le Christ existent toujours. Et ils paraissent comme les autres. Ne le reconnaissent que ceux qui cherchent Christ. Pour les autres, basta. Que ceux qui cherchent Christ vont reconnaître à travers quelqu'un, celui-là, il a Christ. Je voudrais bien le connaître, je voudrais bien aller plus loin avec lui ou avec elle. C'est extrêmement important, cette prophétie. c'est pas qu'une simple parabole allégorique pour les petits-enfants, sans négliger les enfants. Et vous voyez, dans sa joie, il achète ce champ. Pourquoi ? Pour pouvoir fouiller et prendre, bien sûr, ce trésor à tout prix. Il est prêt à perdre ce qu'il a. Le grand champ ne doit pas nous impressionner. Le grand champ est sans vie, mais dans le monde, il y a des gens qui vivent de Christ. Jésus est avec ceux-là, Jésus est au milieu de nous. Et le verset 52 de Matthieu 13, regardez bien, le verset 52, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit, lorsqu'il regarde le royaume des cieux. Tout scribe, c'est quelqu'un qui a la Bible en main, à l'époque de Jésus. Donc ça peut être aujourd'hui quelqu'un qui a la Bible en main, instruit. De ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc, il réfléchit, il regarde ce qu'il a reçu, il regarde comment il a vécu, puis il regarde vers le Christ. Et il compare, il analyse, et puis il finit par choisir les choses nouvelles. C'est ça, être instruit par l'Écriture. L'Écriture nous met un jeu de miroir, elle renouvelle notre vision des choses, elle nous transforme. Vous voyez ? La septième parabole, en vitesse, malheureusement, chapitre 13, versets 47 à 50. Ah ben, il y a la perle. La foule.
Non, il y a le poisson d'abord.
Attendez. Oui, la perle, en fin de compte, c'est le même symbole que l'autre trésor, hein, c'est le même, c'est un parallèle. Alors, il y a les poissons. Les poissons. Matthieu 13. Où est-ce que je suis ? 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Puis on voit bien, après il y a le jugement, il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, on reverra ça avec les prophéties de Matthieu 25 et d'autres prophéties de Matthieu. On va voir que tout se tient dans les paraboles et les prophéties. Alors, il y a toujours l'idée de l'approbation et du salut, et de l'autre côté, du jugement. Et donc, ici, la mer, c'est le monde dans le chaos du péché, qui attend le christianisme, qui attend les chrétiens. Ils sont dans une barque. Ils sont dans une barque et ils tirent le filet, ils ramassent. Ils sont sur le monde et ils sont menacés par le monde. Il y a des tempêtes. Mais qui est maître de la tempête ? Au psaume 107, c'est l'Éternel. Dans le psaume 107, et c'est clair que la mer est maîtrisée par le Christ. Plusieurs fois, Jésus marche sur l'eau ou il arrête la tempête. Vous connaissez tous ces textes-là. Alors, la mer... Le monde, avec le chaos sans péché, n'est pas une menace définitive pour nous. C'est ce qu'on appelle des difficultés d'existence, des difficultés de vivre. Le monde ne nous laisse pas tranquilles, c'est clair, nous chrétiens. Mais ce n'est pas lui qui va nous ôter la vie éternelle. Nous l'avons. Christ est dans la barque. Et la barque va à son port. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en même temps qu'on est dans la barque, on avance, c'est pas rien pour nous. On tire le filet pour que d'autres montent dans la barque. On tire le filet. Et l'image, c'est que la barque s'arrête à un moment donné et elle trie dans tout ce qu'elle a ramassé. Il y a du bon et du mauvais. Les pêcheurs, trieurs et sélectionneurs, ce sont les anges. Bien sûr, évidemment. Le chrétien n'est pas là pour condamner et pour juger les pécheurs, il est là pour les recueillir. Pour les recueillir. Et le royaume des cieux ne demande pas, aujourd'hui, ne demande pas aux chrétiens de trier. Il faut jeter les filets, il faut pêcher des poissons. Et si les chrétiens, à certains moments, manquent de certitude et paniquent sur l'eau, ils paniquent quand ils n'ont pas assez de foi en Jésus et qu'ils pensent que Jésus dort. Or Jésus, même s'il donne l'impression de ne pas être là, est là. Matthieu 28, 18 à 20, « J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ce texte de Matthieu, à la fin, c'est celui-là qui conclut les paraboles et les prophéties de Matthieu. Donc, nous devons nous méfier d'un cœur endurci, d'un cœur qui dort, d'un cœur qui se laisse aller à croire que Jésus n'est pas là et ne fait rien, et qu'on est dans le caca tout seul. C'est du faux de faux. C'est des idées qui viennent de Satan ou de notre incrédulité. La parole nous certifie que la barque arrivera à son port et que les pêcheurs doivent tirer les filets, c'est-à-dire faire l'œuvre de Christ. Le ministère de Christ est de trouver encore des pêcheurs aujourd'hui. Jésus maîtrise la mer, je reprendrai tous ces versets-là une autre fois, et la pêche miraculeuse existe. La pêche miraculeuse existe, il y a à certains moments qu'il y a vraiment des bons poissons qui s'intègrent, qui sont à accueillir dans le royaume des cieux. On reprendra tout ça, parce que c'est trop long aujourd'hui. Hein ? Les habitants de la mer sont les poissons, la mer c'est l'humanité. Les habitants de la terre doivent recevoir la visite des chrétiens, ils doivent recevoir la visite active des chrétiens avant le jugement, pour qu'il y en ait le plus possible de sauver. Nous sommes en demeure d'agir comme des pêcheurs. Et les pêcheurs ne roupillent pas dans la barque. Comprenez bien, le thème est très fort. Si les pêcheurs montent dans la barque et qu'ils partent la nuit, dans la nuit du monde, c'est pas pour roupiller dans la barque en arrivant le matin, là, il y a... On n'a pas pêché, c'est pas grave, on ira manger une frite au café, on touche l'argent du CPAS ou le RSA, on ira manger une frite, prof, qu'on ait pêché ou pas. Non, dans la chrétienté, le pêcheur, celui qui pêche ou la femme qui pêche, c'est quelqu'un d'actif et d'engagé pour le Seigneur. Autrement, c'est pas un chrétien. C'est pas quelqu'un qui va dans la barque. C'est quelqu'un qui reste sur la rive, qui n'est jamais démarré, parce qu'il ne veut pas de la tempête, il ne veut pas des risques, il ne veut pas vivre la crainte. Et il ne veut pas voir des autres nouveaux chrétiens autour de lui. Encore, on sait très bien qu'ils ne seront jamais parfaits, on sait très bien qu'ils vont nous apporter encore des problèmes, c'est pas la peine, on est déjà bien comme on est. Donc, ne tirons pas les filets, parce que chaque fois qu'on a des nouveaux chrétiens, ça y est, on a de nouveaux problèmes. Vous voyez, ou on monte dans la barque et on est un pêcheur actif, et le Christ est avec nous, ou on n'entre pas dans la barque, c'est foutu. C'est clair qu'on reprendra cette parabole de la mer, parce qu'elle est extrêmement importante, et il y en a encore plein des paraboles. Quand même, Dieu est grand dans sa parole. Ils ont eu de la chance d'être avec Jésus, je vous le dis, moi, pendant 3 ans. Moi, je n'aurais pas lâché d'une semelle. Et vous, comprenez que l'apôtre Jean mettait sa tête sur son épaule et les gens s'endormaient. Ouh là là, il bouge. Ça y est, il va redémarrer. Vite, je le suis. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, tu nous as donné Jésus comme maître, comme directeur, comme serviteur, et il conduit la barque, il maîtrise les flots, et Seigneur, il veut nous engager à son service, il faut monter dans la barque, marcher sur l'eau comme Pierre a fait, ça nous mettrait un tremblement de l'effroi comme à Pierre. Mais Seigneur, il arrive même parfois que tu nous demandes de marcher sur l'eau, de croire sans voir, de compter sur toi, sans savoir ce que tu vas faire. Et Seigneur, c'est toute notre foi que nous te déposons. Fais-la grandir, viens au secours de notre incrédulité. Augmente notre foi, Seigneur. Du haut des cieux, donne-nous ce trésor caché de Jésus vivant dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits. Pour ta gloire, Seigneur Dieu. Amen.
Amen.